Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Ah bah, je pense que peut-être les hommes vont de moins en moins se comporter en clients. Je crois que depuis le début de l'humanité, les hommes se comportent en clients et que dans n'importe quel couple... Il y a une forme de prostitution larvée. C'est quand même le premier lieu de prostitution larvée, le couple, tu vois.
Je crois que son interdiction crée du fantasme autour d'elle en France, comme nulle part ailleurs où elle est légale. Elle est considérée comme le plus vieux métier du monde et le plus mystérieux en même temps. La prostitution a été traitée par les plus grands auteurs français, mais j'ai eu récemment entre les mains un livre contemporain qui en parle avec grâce. Sa plume est si puissante et belle, au point que je n'ai pas pu le lâcher avant de l'avoir fini, ce qui m'arrive assez rarement au-delà de 300 pages. Il s'appelle La Maison. Son auteur, c'est Emma Baker. Tous ses livres parlent du désir et de sa mécanique, un sujet qui me passionne. Dans La Maison, elle parle de son expérience vécue au sein d'un bordel à Berlin pendant 2 ans. Elle évoque la prostitution choisie et non subie, et ce qui m'a le plus troublé dans ce livre, c'est cette mise en danger pour faire d'une expérience personnelle une prise de vue universelle. Dans cet épisode, je vous mets un peu en garde, nous parlons beaucoup de sexualité, des hommes, des femmes, des relations entre eux, de féminité, de ce qu'on appelle un plan cul et de sa potentielle rémunération, pourquoi pas, mais également du voile, de la maternité et de ce que les hommes viennent chercher au bordel. Bref, c'est un épisode très fort, je l'ai adoré personnellement et j'espère que vous passerez aussi un bon moment. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la géniale Emma Baker. Emma Baker, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai merci qui vient du cœur, parce que je pense que tu as écrit un livre sur le féminisme, ou la féminité en tout cas.
Merci.
Peut-être pas le féminisme, mais la féminité, et sur toutes ses facettes. Ton livre m'a beaucoup marqué, d'autant que je l'ai lu à une période de ma vie où j'ai découvert que la prostitution n'était plus chasse gardée d'une certaine partie de la population, mais... arriver dans mon cercle plutôt rapproché.
D'accord.
Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, enfin, ni pour les personnes qui le font, ni pour qui que ce soit d'ailleurs. Mais c'est simplement que je me suis posé la question, voilà, on en reparlera après pendant l'interview, mais je me suis demandé pourquoi certains hommes se tournaient vers la prostitution de manière beaucoup plus décomplexée qu'avant, en tout cas. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Et voilà, mais déjà, donc c'était une longue introduction, mais je vais te demander si c'est possible de te présenter autant personnellement que professionnellement, si tu peux.
Bah alors, donc je m'appelle Emma, je suis née en 88 à proximité de Paris, et professionnellement, bah, j'ai un parcours plutôt littéraire, j'ai eu un bac littéraire en 2006. Ensuite, j'ai jamais vraiment trouvé ce que j'avais envie de faire, enfin, quelle étude dans lesquelles vraiment m'investir. J'aurais adoré faire médecine, mais bon, voilà, j'étais pas du tout bonne en maths, donc c'était pas possible. Donc j'ai fait un peu d'hypocagne, j'ai fait des lettres et communications, de la psycho. Et puis en fait, entre temps, j'ai publié mon premier bouquin, et c'est là que je me suis dit, bon, bah voilà, t'es écrivain, donc voilà, c'est ça que tu fais, t'écris. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai toujours fait à côté de l'écriture des petits boulots, alimentaires aussi, parce que ça, bah déjà, parce que c'est. J'en ai besoin, mais parce que ça me vide la tête d'avoir un boulot qui me demande pas grand chose intellectuellement, vu que toute la journée, tu vois, je pense à mes prochains bouquins, quoi. Donc voilà.
T'as toujours fait ça, c'est-à-dire que tu t'es dit c'est ça et ce sera rien d'autre. À quel âge environ?
Bah écoute, je devais avoir quoi, 20-21 ans. J'arrivais pas vraiment à trouver un truc, un boulot dont je me disais je ferais ça jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Ça me semblait hyper réducteur. Enfin, en tout cas, moi, j'arrivais pas à le faire. Évidemment, c'est un peu bête, j'aurais pu m'accrocher. Mais bon, voilà, ce qui m'a toujours vraiment fait me lever le matin, c'était l'idée d'écrire. Et voilà, en fait, finalement, je considère que je fais exactement ce que j'ai envie de faire.
Il y a des écrivains dans ta famille?
Non, non, il n'y a pas d'écrivain dans ma famille. Non, pour le moment, je suis la seule.
D'accord.
En revanche, et ça, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais j'ai découvert il y a pas très très longtemps, peut-être 2-3 ans, que dans du côté de mon grand-père, c'est-à-dire la mère de mon grand-père et ses tantes. Donc l'une d'elles était bonne sœur et l'autre tenait un bordel avant la fermeture des bordels. Donc ça, je sais pas si ça joue l'hérédité ou.
Et tu l'as découvert il y a pas longtemps.
Ouais, vraiment, il y a pas du tout longtemps quoi. Mais j'ai trouvé ça, je sais pas, ça m'a fait rire. Et puis qui je suis en tant qu'écrivain, je pense que tous mes livres depuis le début parlent en fait surtout du désir et de la mécanique du désir entre les hommes et les femmes, parce que le désir plus que le sexe, c'est ça qui m'intéresse, c'est sur ça que j'ai envie d'écrire.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton livre, la motivation, alors je pense que tu en as déjà beaucoup parlé.
Oui, mais c'est pas grave.
Mais tu as peut-être des choses à dire en plus, je sais pas, tu as peut-être des choses... Déjà, pourquoi ce livre ? Donc ça s'appelle La Maison,
ouais.
C'est l'histoire de... c'est une histoire autobiographique.
Oui, c'est de l'autofiction.
Ouais. Voilà, c'est de l'autofiction et c'est un livre qui raconte ton expérience au sein d'une maison close à Berlin.
Voilà. Mais, et t'as raison de le noter, c'est mon expérience au sein d'une maison close très particulière de Berlin qui, je pense, n'est pas représentative de toutes les maisons closes à Berlin. Et le livre s'appelle La Maison parce que j'ai eu la chance, à un moment de mon expérience, de tomber sur cet endroit-là. Alors qu'au début, ma motivation, c'était plutôt de... J'avais une motivation presque de journaliste, de brosser un peu un portrait de ce qu'est la prostitution aujourd'hui à Berlin, dans un pays où c'est légal, vu que chez nous, ça ne l'est pas du tout. En fait, je crois que j'aurais échoué misérablement et mon livre est devenu ce qu'il est devenu parce que je suis tombée sur cet endroit que j'avais pas du tout prévu de trouver.
Vivais là-bas?
Ah non, je vivais pas à la maison, non, pas du tout.
C'était non, mais vraiment... je veux dire, tu vivais...
je vivais à Berlin déjà, et ouais. J'y vis toujours, ouais. C'était en 2013 que j'ai déménagé, et puis en 2014, j'ai commencé à travailler, et en fait, comme tu disais, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, je me baladais, je cherchais mon troisième sujet, mais sans vraiment activement le chercher, et je passe devant une espèce de petit lumignon rouge avec marqué bordel, quoi, vraiment le truc d'une banane affolante entre deux boutiques et moi évidemment ça m'a interpellée et j'ai été frappée à la porte de ce bordel pour voir à quoi ça ressemblait. Bon, il s'avérait que je suis pas restée dans celui-là, mais le fait d'avoir poussé la porte de cet endroit-là m'a fait me dire ok, t'as commencé là maintenant et lance-toi dans le truc parce que je sentais déjà que j'avais envie d'écrire là-dessus, j'avais envie d'en faire un bouquin. Et puis à un moment de ma vie où je me disais mollement, va falloir que tu te trouves un boulot quand même, d'un seul coup, tous les éléments se sont rassemblés et je me suis dit, ok, tu vas faire ce boulot et quelque part, tu vas être payé pour écrire là-dessus. Enfin, tu vas être payé pour écrire ton livre, qui était une situation dans laquelle je m'étais jamais retrouvée. Donc, c'est vrai que ça, c'était pour un écrivain, c'était agréable, quoi, de trouver un compromis comme ça. Et puis, voilà, l'expérience en elle-même m'attirait énormément. Et depuis, je vais pas te dire depuis toute petite, en tout cas, je l'avais pas conceptualisé comme ça. Mais quand j'ai su que c'était possible et que j'avais pas besoin de me cacher, et qu'ici c'était considéré comme un vrai boulot, je me suis dit il faut absolument que t'essayes. C'était un intérêt personnel avant que d'être un projet littéraire aussi.
Mais le déclic, le moment où tu t'es dit ok j'y vais, est-ce que c'est lié à parce qu'au début du livre tu parles effectivement d'une relation que tu as avec un homme
ouais.
Et tu vois sa manière. La manière dont il regarde les prostituées. D'ailleurs, à un moment, tu lis... je suis assez marquée par juste des regards que tu perçois de cet homme sur ces prostituées. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit « je vais aller chercher là-bas une forme d'assurance, une forme de... » tu parles même de surpuissance à un moment des femmes prostituées.
Tout à fait. T'as tout à fait raison. C'est ça que je cherchais aussi. Quand je te dis que j'y pense depuis que je suis toute petite fille, en fait, depuis que je suis toute petite fille et que je lis et notamment des bouquins de Maupassant, tu vois, la Maison Tellier ou Nana de Zola ou La Mécanique des femmes de Calafert, c'est pas la prostitution qui m'intéressait. En vrai, c'était d'accéder à ce statut de femme désirable et à qui on demande absolument rien d'autre finalement. d'être jolie et séduisante et charmante, et de pouvoir incarner la femme dans tout ce qu'elle a de plus désirable et de fait surpuissant, parce que le désir c'est un esclavage, comme pour les hommes comme pour les femmes. Et ayant grandi moi dans une société où en tant que femme on est tellement soumise à toutes ces injonctions, à la beauté, à la perfection, au fait d'être désirable, bah, c'est sûr que j'ai grandi en trouvant ça absolument incroyable d'être une femme, de faire partie de cette de j'ai presque envie de dire de cette race finalement que je trouve absolument fascinante, tu vois. Ma condition de femme, j'y tiens énormément, je l'échangerais pour rien au monde, tu vois, même si c'est effectivement pas toujours facile. Mais je pense que larvée dans toutes les formes d'oppression sous lesquelles on vit, il y a quand même une espèce de surpuissance qui est la raison pour laquelle d'ailleurs les hommes ont toujours essayé de nous réduire au silence, parce qu'il est évident que sinon c'est nous qui gouvernerions le monde, tu vois. Et je sais que la petite gamine de 15 ans en moi qui avait des bagues et des lunettes et beaucoup de potes, mais tu vois, qui n'était que ça pour les mecs, quand elle est rentrée dans le bordel, s'est dit waouh, ok, la partie commence, quoi. Allons-y, commençons le jeu, parce que ça me semblait incroyable de pouvoir n'être que ça, qu'un corps désirable.
Est-ce que le bordel, ou en tout cas la maison close, c'est un lieu de vérité pure ?
Bah, écoute, non, je vais pas dire à la base que c'est un lieu de vérité pure. C'est pas conçu pour ça. En fait, c'est un lieu de comédie, c'est un lieu d'illusion. Je pense que les hommes sont tout à fait conscients que c'est une illusion qu'ils viennent chercher, qu'ils trouveront probablement, que ce soit une bonne ou une mauvaise illusion. Mais dans ce déferlement de comédie, de grand guignol et d'opérette et de tout ce que tu veux, il y a, qu'on le veuille ou non, des moments de vérité qui sont justement encore plus poignants qu'au dehors. Parce que les hommes auront payé, enfin n'ont pas payé pour ça, c'est quelque chose de miraculeux qui arrive comme ça, sans que la pute le sache, sans que le client le sache, et en tout cas des moments de véritables rencontres entre les hommes et les femmes sur lesquels moi par exemple j'avais pas du tout tablé, des choses très émouvantes auxquelles tu t'attends pas et qui te prennent par la gorge et qui n'ont rien à voir avec l'argent. Oui, il y a quelque chose de vrai dans le bordel. Ce qui, je pense, est vrai, c'est notamment ce à quoi la femme est réduite quand elle travaille dans un bordel, finalement, à une enveloppe, qui est, selon moi, un peu une schématisation de la condition de la femme en général, si tu veux, à qui on ne demande pas grand-chose à part d'être un corps qui porte un enfant ou d'un corps qui suscite le désir et qui le satisfait. Et dans cet état schématique auquel on essaye de réduire les putes, non seulement dans cette maison particulière, dans ce contexte, elles s'en élèvent et prennent une puissance à laquelle on ne s'attendait pas, mais surtout tu t'aperçois que cette condition très schématique-là réduit énormément les hommes au silence, à la timidité, et que de fait, dans cette espèce de flou, les rapports de domination et soumission s'inversent très souvent, et celui qui a le pouvoir n'est pas forcément celui qu'on pourrait imaginer. En l'occurrence, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, et je sais très bien que ça ne concerne que cette maison, que ça ne concerne qu'un certain genre d'établissement. J'aurais probablement pas écrit les mêmes choses si j'étais restée, par exemple, au manège, ou si j'avais été dans une de ces énormes boîtes qui existent à Berlin.
Le manège, tu peux en parler rapidement ?
Oui, bien sûr.
C'est
la première maison dans laquelle j'ai fichu les pieds. En fait, je me suis un peu laissée avoir par les photos sur Internet en me disant « Waouh, c'est joli, ça a l'air haut de gamme, nanana ». Et puis, voilà, je suis arrivée, je suis restée 15 jours. Et en fait, tu vois, au bout de 15 jours, j'ai passé 15 jours à avoir très peur de ce qui allait m'arriver parce que je sentais bien que... C'est toujours un peu à la limite de la légalité, tu vois, tu pouvais trouver de la coke, c'était ouvert toute la nuit, donc ça implique des conditions de travail qui sont pas forcément super sympas pour les nanas, parce que dans un établissement qui est ouvert toute la nuit, t'as beaucoup de mecs qui viennent entre copains pour boire des verres et peut-être s'échauffer avec la possibilité d'eux, mais qui au final ne feront rien que regarder, et pour une fille ça implique une perte de temps monumentale. Mais c'était pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'il y avait aussi aucune cohésion dans l'équipe parce que les filles étaient pas, on leur apprenait pas à se faire confiance les unes aux autres. Mmh. Elles discutaient pas de leurs clients. Et on sentait bien que, voilà, leur libre arbitre était quand même, un peu branlant, quoi. Il y en avait qui habitaient à demeure. C'était surtout des filles de l'Est dont je me suis toujours demandé si on les avait pas, non pas forcées, mais enfin fortement aiguillées dans cette direction-là. Et que finalement, enfermées dans un style de vie qui est celui des prostituées, c'est pas forcément facile de s'en sortir parce que on fait beaucoup de cash et que c'est compliqué pour un certain nombre de filles ou de mecs qui pratiquent ce métier d'établir un budget, de mettre de l'argent de côté. On sentait bien une espèce de détresse et moi c'est un endroit où j'arrivais pas du tout à trouver ma place parce que c'est vrai que j'arrivais avec mon a priori de tendresse et d'envie de voir quelque chose d'humain dans ce métier. Parce que je sais très bien que ce métier, c'est pas que la prostitution forcée, qui représente une énorme partie du boulot.
C'est la prostitution décidée. Enfin,
mais c'est la prostitution décidée. Mmh. Tu vois, on m'a reproché à pas mal de reprises de pas évoquer du tout les prostituées qu'on force à faire ce boulot. Mais c'est parce que c'est pas mon sujet, tu vois. Si j'avais écrit un bouquin sur la prostitution forcée, je pense que personne serait venu me voir en me disant « Mais t'as pas parlé des filles qui choisissent de faire ce métier ?» Parce qu'on est beaucoup plus habitué à la pute qu'on force, à la pute qui souffre, et que la pute heureuse, c'est un concept qui existe depuis que le monde est monde, mais dont on ne parle pas parce qu'il ne rassure absolument personne.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des hommes que tu as rencontrés là-bas? Moi, j'ai une question un peu cash, hein, mais je crois que quelqu'un te l'a déjà posé, mais comment on fait pour faire l'amour avec un homme qu'on ne désire absolument pas?
Je pense
que comment ça se passe concrètement.
Il y a pas besoin d'aller au bordel pour faire l'amour avec un homme qu'on désire absolument pas. Enfin, moi, je sais que c'est une situation que j'ai vécue avant d'aller bosser dans un bordel, que j'ai entendu de la bouche de pas mal de copines à moi. Et puis il y a désir et désir. C'est ça qui est intéressant, c'est que le désir physique est pas forcément celui qui sexuellement va t'exciter le plus. Le nombre de fois où tu désires pas un mec, mais il te fait beaucoup rire et de fil en aiguille, en fait, tu t'aperçois que cet humour le rend aussi désirable. Mais je vois, je veux dire, je vais pas être de mauvaise foi, je vois où est ta question. Comment tu fais? Et tu vois, tu penses à, enfin, c'est pas tu penses à autre chose, mais tu vois ça comme un métier. Tu vois, un métier où t'es pas constamment obligé de désirer faire ce que t'es en train de faire. Tout comme moi quand je suis serveuse, tu vois, il y a des jours où je peux pas les encadrer. Mais ce qu'on suppose du premier client d'une prostituée, on s'imagine toujours que ça va la détruire, enfin la laisser en tout cas en doute d'elle-même et se sentir salie, tout ça. Ça surprendra certainement pas un certain nombre de filles de savoir que ça ne m'a pas provoqué une seule seconde un espèce de choc ou un espèce de dédoublement de ma personnalité. Je l'ai fait avec ma résignation de femme, en fait, qui est une résignation, c'est un terme un peu dramatique, mais disons, Je savais que c'était un métier, que ça n'avait rien à voir avec mon désir. Mais ceci dit, j'ai aussi découvert en faisant cette expérience qu'il y a pas mal de fois où le plaisir physique vient plus facilement avec un homme justement que tu ne désires pas.
Ah, ça c'est très intéressant.
Et c'est très intéressant,
mais ça me perturbe un peu.
C'est-à-dire qu'un homme, tu vois, qui vient te voir au bordel et à qui globalement tu n'aurais pas serré la main dans la rue, tu vois. Je dis ça tout le temps, mais c'est la meilleure image que j'ai. En fait, en tant que femme, ce que ça produit sur toi, c'est que t'en as plus rien à faire d'être désirable ou pas, puisque tu te sens toi-même désirable, c'est ton métier d'être désirable, donc t'as confiance en ça. Et t'es pas en train de te dire constamment avec ce type, oh là là, est-ce que dans cette position, j'ai pas l'air trop grosse, est-ce que machin, est-ce que je fais ce qui lui plaît? Tu surveilles moins la montée de son plaisir à lui, et de fait, tu penses beaucoup plus à toi, c'est plus facile, enfin moi j'ai trouvé ça plus facile à beaucoup de reprises de m'abandonner complètement à un homme qui ne me plaisait pas, mais qui peut-être de fait me touchait bien, ou s'y prenait bien avec moi, mais tu vois, sans aucune considération de désir, j'avais une facilité d'abandon parce qu'il y avait un effondrement de la pression que tu as quand t'es avec un homme que tu désires et pour lequel forcément, même dans ce contexte professionnel, tu vas avoir envie de faire le show, quoi, de sortir le grand jeu, de lui laisser un souvenir impérissable. Ouais. Et finalement, dans la vie comme au bordel, tu t'aperçois que le souvenir le plus impérissable, c'est sans doute le souvenir de ton abandon, tu vois. Le souvenir de quand vraiment t'as joui et que peut-être le mec l'a senti, peut-être pas. Ouais. Mais comme je te disais, dans la vie réelle, je trouve que c'est aussi un challenge quand un mec te plaît vraiment et que t'es peut-être tétanisé par ton désir de ce mec-là, de te laisser aller et de jouir. Ouais. Et moi, je m'en suis aperçue au bordel, mais ça m'était certainement arrivé avant, parce que le bordel est un miroir grossissant où toutes les mécaniques du désir entre les hommes et les femmes sont mises à nu et de fait, faciles à étudier, puisque beaucoup plus grossières que dans la vie réelle.
J'ai cru comprendre que tu décrivais un environnement très chaleureux, mais surtout des hommes qui venaient pas uniquement finalement chercher de la sexualité. Enfin, ils venaient aussi chercher. On parle souvent de la dichotomie entre la mère et la pute, mais ils viennent chercher une épaule sur laquelle s'épancher, discuter, voilà, parce qu'ils sont pas non plus uniquement venus pour.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que je pense que pour les hommes comme pour les femmes, il y a un besoin de substance, et qu'un homme qui vient chercher du sexe, bon, j'en ai eu aussi hein, des mecs qui vraiment venaient parce qu'ils avaient envie de ça, quoi, ils avaient envie de ça, et ensuite ils partaient. Tu parlais de maman et de putain, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment dans ce contexte-là que je me suis aperçue qu'en fait les hommes n'aiment rien tant que de mélanger la maman et la putain, tu vois. Et qu'une fois qu'ils ont baisé une fille, en fait ce qui reste de l'heure ou de la demi-heure ou des trois quarts d'heure que tu passes avec cet homme sont majoritairement consacrés à juste être allongés l'un de l'autre et à parler, tu vois, parce que tout le monde sait bien qu'une fois que t'as baisé et que cette pression-là s'est effondrée, c'est là que tu reçois les plus belles confidences, que toi-même tu donnes un peu plus que ce que tu donnerais à un autre client ou pas, ou tu vois juste un massage, mais en tout cas la proximité entre l'homme et la femme, c'est ça qui je pense les fait venir. En fait, le sexe en soi, pour beaucoup de clients, j'avais l'impression que c'était presque accessoire. Voilà, on se connaît toujours mieux. Enfin, plus on baise et mieux on se connaît. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il y avait une énorme clientèle d'habitués. Tu vois, je dirais qu'à peut-être 60-70%, c'était des hommes que je revoyais très régulièrement. Peu de nouveaux clients, en fait. Et donc, c'est bien là qu'on s'aperçoit que les hommes ne baissent pas qu'avec leur queue et les femmes ne baissent pas qu'avec leur tête, contrairement à ce qu'on peut dire, tu vois.
C'était des hommes mariés en majorité ?
Bah, pas une majorité d'hommes mariés, mais quand même, oui, un socle assez solide d'hommes mariés qui viennent, en fait, juste pour toucher une autre femme que la leur, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a certains moments, mais j'en parle dans le livre, où je me dis, mais putain, mais quand même, le type, il est marié, il vient au bordel pour baiser en missionnaire une nana qu'il voit depuis 6 mois, tu vois. Et t'as tendance à te dire, mais bon, mec, à ta place, moi, j'irai voir toutes les filles de la maison. Mais en fait, est-ce que t'irais voir toutes les filles de la maison? Parce que une fois que t'as trouvé une nana avec qui il y a une connexion, c'est exactement comme dans le monde du dehors, t'as envie de voir ce que ça va donner, t'as envie de savoir si c'est que du sexe. Voilà, d'autant que pour une femme, même quand tu jouis avec un client, il y a toujours un moment où tu te dis, mais est-ce que lui m'a comprise mieux qu'un autre, alors que c'est peut-être juste ton corps qui, pour une raison ou pour une autre, a répondu aujourd'hui, répondra pas demain, répondra peut-être même pas avec un mec qui te fait envie. Donc,
est-ce que t'es en train de dire que la mécanique, toi qui as justement creusé le sujet, et je pense que tu continueras encore à le faire, certainement, en tout cas j'espère. Mais est-ce que tu penses que la mécanique féminine et la mécanique masculine finalement se ressemblent ?
Mais je pense qu'en fait, il y a un malentendu de départ entre les hommes et les femmes qui est que les hommes peuvent déjà commencer à un niveau de désir qui est bien supérieur au nôtre. C'est-à-dire que quand on commence à penser à ça, quand on commence à désirer, finalement, l'érection de l'homme, elle vient de manière assez, je vais pas dire spontanée, j'ai pas un corps d'homme, mais enfin, j'imagine, j'ai quand même l'impression qu'il y a ce besoin d'érection. Mais quand un homme a une érection, nous, ça peut nous prendre des heures, peut-être, pour que le même phénomène se produise. Et une femme peut être très excitée dans sa tête, et pourtant, le corps, pour une raison ou pour une autre, ne suit pas. Et je pense que le désir des hommes n'est pas aussi simple qu'on le décrit. Par contre, je pense que le désir féminin est encore plus compliqué que ce qu'on le décrit. Mais je crois, pour avoir fait cette expérience, j'ai quand même l'impression que on a tous nos challenges, et que la sexualité d'un homme est peut-être plus simple à plein d'égards, mais en tout cas, il y a cette tyrannie de l'érection que nous, on ressent pas, parce que finalement, nous, il nous suffit, entre guillemets, d'écarter les jambes, qu'on en ait envie ou pas. Il y a plein de manières d'y arriver quand même si on n'est pas mouillé, quoi que ce soit. Mais un homme, il a ce besoin d'érection. qui est quand même un peu, voilà, toujours une espèce d'épée de Damoclès, quoi. Bien sûr. Ça marche pas, c'est foutu. Donc, comment on en parle? Est-ce qu'on en parle même? Parce que plus on en parle et moins on bande. Ouais. Ensuite, il y a ce truc d'éjaculation, où on sait aussi que ça peut arriver au mec d'éjaculer sans plaisir et d'avoir quand même encore envie. Mais dans ce cas, il faut attendre la prochaine érection. Je pense qu'il y a une pression dans la sexualité masculine. Alors peut-être qu'ils composent avec, peut-être que la pression est une partie de leur désir, de leur plaisir, j'en sais rien. Mais je pense que si le désir féminin et masculin ne se ressemble pas exactement, en tout cas, les challenges ne font que se déplacer. Et je pense que voilà, le gros problème aujourd'hui dans le couple entre l'homme et la femme, c'est vraiment un problème de communication et de vouloir et de savoir en parler, parce que c'est pareil, le discours sexuel est pas simple.
Et encore voilà. Plus maintenant, non, aujourd'hui. Est-ce que tu penses pas, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro, peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu ressens une sorte de ras-le-bol de la part des hommes de se tourner vers des filles entre guillemets qui ne sont pas prostituées? Enfin, est-ce que depuis MeToo, toute cette vague de féminisme hyper poussée, est-ce que les hommes en réponse à ça ne se tournent pas finalement un peu plus vers la prostitution et l'assument de plus en plus?
Bah écoute, je sais pas, c'est intéressant comme théorie. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça.
C'est pas une théorie, hein, c'est un feeling.
Non, mais t'as peut-être raison. Après, moi, je pense qu'en France, c'est quand même toujours quelque chose de problématique d'avouer que tu vas voir des putes, parce que on en a une telle idée que tout de suite le client devient une espèce de monstre ou de pauvre type ou de pervers. Tout comme la pute est soit une info, soit une cinglée, soit une victime. Je sais pas si ce mouvement MeToo, c'est intéressant comme théorie. J'y ai jamais pensé. Si c'est le cas, je pense que les mecs ont peut-être une sensibilité un peu mal placée, parce que finalement, ce que ce mouvement MeToo et ce que cette prise de parole des femmes tend à montrer, c'est juste qu'on en a ras-le-bol et qu'au bout d'un moment, les hommes vont devoir y mettre du leur pour que la vie soit vivable pour tout le monde. Mmh. Mais si de ça, les mecs ont compris que oh là là, on peut plus rien dire aux femmes, on peut plus les draguer, on peut plus leur faire de propositions. Ah, c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Au bout d'un moment, tu vois, quand je pense à MeToo, me vient toujours cette réflexion que, tu vois, quand les mecs te disent on peut plus rien dire aux femmes, on peut plus draguer les femmes, mais personne n'a jamais dit un truc pareil. Ouais. Les femmes n'ont jamais dit qu'elles avaient plus envie d'être draguées, tu vois. Moi, j'adore me faire draguer, j'adore me faire faire des propositions. Mais tu vois, la différence fondamentale, c'est quand est-ce que tu t'arrêtes, quand est-ce que tu as compris que sans me dire non, la nana te disait non. Ça, c'est un instinct que t'as ou que t'as pas. Mais on n'a pas dit d'arrêter de draguer, on n'a pas dit d'arrêter d'être galant ou charmant. On a juste dit arrêter d'insister. Et putain, ouais. d'insister ouais. encore, tu vois. Ouais. Mais les mecs prennent tout. Enfin, en l'occurrence, ils prennent pas le problème comme il le faut, tu vois. Mmh. C'est tout comme... c'est toujours des mecs pour te dire « Ah, mais moi, je suis pas un violeur, mais je comprends pas d'où ils sortent, les violeurs. » À croire que finalement, personne n'a jamais violé, personne n'a jamais foutu une main au cul. C'est jamais eux, c'est toujours les autres, tu vois. Le problème, c'est que les mecs ont du mal à se penser en tant qu'entité et à réaliser que certes, eux ne sont pas des violeurs, mais il y en a quand même un certain nombre. Enfin, en tout cas, les violeurs sont majoritairement des hommes, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est un problème de se mettre en perspective. Enfin, je sais pas, je dévie un peu de la trajectoire, là, désolée.
Non, pas du tout, au contraire. Non, mais est-ce que tu regardes des réseaux sociaux?
Ouais, malheureusement, ouais, un peu plus que j'aimerais, ouais.
Un peu plus que tu n'aimerais?
Bah oui, parce que je trouve qu'on perd un temps fou, et puis c'est une telle, tu vois, hystérisation.
Alors justement,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qu'est-ce que tu penses de la représentation de la femme, grosso modo, sur les réseaux sociaux, tu vois? Enfin, moi, j'ai un peu le sentiment, mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue. C'est qu'on est, quand même face à des choses où les femmes s'obligent à revenir à une forme de représentation d'elles-mêmes très superficielle. Et qu'est-ce que t'en penses, tout simplement, tu vois? Enfin, de l'image de la femme aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Bah, écoute, moi je suis très contente de voir de plus en plus de prostituées qui ont des Twitter et des Instagram et qui font leur pub, enfin qui travaillent à visage découvert. Je suis de plus en plus contente de voir des femmes qui allaitent, des femmes voilées, des femmes pas voilées, que les femmes prennent la parole d'une manière générale, ça me fait plaisir. Après, je trouve que ça concerne d'ailleurs pas les femmes, mais sur Twitter par exemple, enfin c'est impossible d'avoir un débat, tu vois, c'est une telle hystérisation, ouais. Les gens prennent tellement tout au premier degré qu'en fait, tu vois, même sur des discussions intéressantes où tu pourrais vraiment chacun apporter son argument, enfin je pense par exemple à des débats que j'ai pu avoir sur Twitter avec des abolitionnistes, tu vois, ou même des putes françaises qui réagissaient sur des interviews à moi, je trouve que tout de suite ça part à la castagne, il n'y a pas moyen d'avoir un rapport un peu mais bon, ça c'est le coup du nombre limité de caractères aussi, tu vois, mais je trouve que ça fait rien pour l'apaisement des débats et pour un débat construit. Enfin, je trouve ça très compliqué, quoi.
Qu'est-ce que tu peux nous dire? Excuse-moi, je fais un aller-retour là parce qu'on s'est un peu échappé avec les réseaux sociaux, mais ton avant et ton après à toi, qu'est-ce que tu as vécu et comment tu t'es ressorti de cette expérience concrètement, tu vois, sur ton corps, dans ta tête? Qu'est-ce qui a changé en toi profondément?
En fait, si tu veux, moi je suis partie dans cette expérience en me faisant suffisamment confiance, en faisant suffisamment confiance à mon amour des hommes pour savoir que mon amour des hommes ne serait pas diminué ou détruit par mon expérience. C'est le cas, oui. Enfin, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression de les aimer mieux maintenant, tu vois, parce qu'avant de faire cette expérience, bon, j'avais une énorme quantité d'amants, tu vois, j'avais vraiment cette tyrannie du désir, enfin d'être désirée, de désirer moi-même. C'était vraiment le truc qui me faisait me lever le matin. Et j'avais une espèce de tendance à la goinfrerie, parce que dès qu'un homme semblait montrer une envie, tu vois, de coucher avec moi, par exemple, j'y allais parce que j'avais besoin de savoir comment lui me désirait, comment lui me regarderait, ce que lui avait envie de me faire. C'était ça ma curiosité, et ça l'est toujours aujourd'hui, mais tu vois, cette tyrannie-là, je l'ai plus vraiment, en sens où c'est très apaisé, tu vois, quand tu baisses comme ça avec un tel rythme pendant 2 ans et demi, que ça devient ton boulot. Bah, tu vois, tu t'as tendance à privilégier la qualité sur la quantité après. Mmh. Et de fait, je me sens beaucoup plus paisible dans l'image que j'ai de moi. Tu vois, je me sens beaucoup plus. Je me sentais déjà désirable. Tu vois, maintenant, j'y pense moins. Tu vois, c'est un fait. Je le sais que je me conçois comme désirable et que manifestement il y a des hommes qui me trouvent désirable aussi. Et surtout, sexuellement, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur moi. Tu vois. Par exemple, ce truc de l'orgasme clitoridien, de l'orgasme vaginal, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup réfléchi quand je bossais, parce que je crois, par exemple, que l'orgasme vaginal, c'est pas un truc que tu connais tout de suite, immédiatement, quand tu commences ta vie sexuelle. Je crois que c'est un endroit du corps qui s'éduque. Qui se travaille, entre guillemets, qu'il y a besoin, de beaucoup de pénétration, peut-être, pour commencer à comprendre la subtilité de ce genre de plaisir, parce que c'est sûr que c'est pas aussi immédiat qu'un orgasme clitoridien. Moi, je trouve que je comprends mieux mon corps, enfin, cette partie-là de mon corps après 2 ans et demi. Ça ne concerne peut-être que moi, j'en sais rien. Mais, j'ai l'impression de mieux connaître mon désir, comment il se réveille, comment il s'éteint, à quel point il peut être capricieux, de me pardonner beaucoup plus de ne pas jouir, parce que tu vois, cette tyrannie de l'orgasme que les nanas de ma génération vivent, c'est quelque chose de très très compliqué à intérioriser, et tu vois, de te pardonner le fait de ne pas jouir à tous les coups, ou de même pas peut-être avoir envie de jouir à un moment donné, tu vois. C'est quelque chose que j'ai l'impression de mieux gérer aujourd'hui, tu vois.
Sauf erreur de ma part, t'es devenue maman après ?
Ouais, je suis devenue maman. En fait, j'ai rencontré mon copain pas en tant que client, il n'était pas du tout client, mais je l'ai rencontré pendant que je faisais cette expérience-là.
D'accord.
Et je suis tombée enceinte de lui quand je travaillais encore, et donc du coup j'ai arrêté de travailler. Et j'ai recommencé un petit peu après, avant que la maison ferme. Et c'est vrai que ça, j'ai très envie d'en parler dans un prochain bouquin, parce que d'être pendant 2 ans et demi, tu vois, un corps désirable et uniquement que ça, et brusquement tu te retrouves catapulté dans un corps de femme enceinte et puis ensuite un corps de maman avec tout ce que ça soupçonne de fatigue et de non-désir absolu, à part le désir de ton lit, tu vois. Alors comment est-ce que le, tu vois, comment est-ce que le désir renaît dans une femme qui vient d'être maman, tu vois, qui a un petit de 1 an, de 6 mois peut-être, comment la lumière revient au bout de ce tunnel qui est un tunnel merveilleux mais qui quand même est un tunnel, il faut bien le dire, tu vois, d'épuisement, de fatigue, ouais, de sacrifice. Il me semble que c'est très intéressant. Puis moi, c'était un choc thermique, hein, forcément, tu vois, de passer de l'un à l'autre comme ça, à une vie...
Tu t'y attendais pas du tout ?
Si, si, on prévoyait en plus, okay, tu vois, mais...
Et mais dans ton esprit, cette période, cette expérience au sein de la maison, c'est ça, selon toi, qui t'a un petit peu déclenché l'envie d'avoir un enfant ou
Non, j'ai toujours eu envie d'avoir un enfant. D'accord. Et je sais pas, il y a un moment où je sais pas, j'ai rencontré mon copain et je me suis dit, enfin, on s'est tout de suite vu avoir des enfants ensemble et voilà, on a essayé. Mmh. Et ça c'est.
Excuse-moi, je t'ai coupé. On disait que l'expérience de maman c'est un tunnel, etc. Mais du coup, c'est le sujet de ton prochain livre, je crois.
Bah, je crois que ça va l'être. Tu vois, j'ai pas commencé, mais il me semble qu'il y a tellement de trucs à dire sur la maternité. Tu vois, il y a tellement de choses déculpabilisantes aussi à dire, parce que moi en Allemagne, les mamans ne sont pas exactement les mêmes qu'en France, tu vois, il y a plein de choses qui sont pas exactement pareilles. Alors moi, j'ai toujours ma perspective de française là-dessus, j'ai été élevée en France, mais je pense qu'il y a plein de choses drôles et inhabituelles à dire sur la maternité, qui sont peut-être des choses qu'on s'interdit de dire parce qu'elles ont l'air sacrilèges. Enfin, je suis pas en train de dire que je vais écrire un livre transgressif ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de parler de cette expérience de la maternité qui suit de très très près celle du bordel et tout ce que ça soupçonne comme changement, comme transition immense dans une femme. Enfin, en moi en l'occurrence, mais je pense pas être la seule.
T'as gardé des contacts avec les femmes de la maison ou pas du tout ?
Bah écoute, oui, avec quelques-unes, mais le problème quand une maison ferme, c'est que les filles se dispersent dans d'autres maisons. Ouais. Et que quand tu te disperses dans d'autres maisons, souvent, pas tout le temps, mais souvent, tu changes de nom. Parfois, tu le gardes pour que tes clients te retrouvent, mais souvent, t'en changes. Et à partir de ce moment-là, c'est compliqué de les retrouver. Et puis, oui, je crois que c'est une profession quand même qui rend les femmes assez farouches, et pour des bonnes raisons. C'est parce que tu n'as pas envie, peut-être même pas avec tes collègues, de partager ta vie privée dans laquelle t'es absolument pas une pute, parce qu'il faut pas négliger le poids du stigmate, tu vois, quand même, pour des nanas, même qui travaillent dans un environnement où c'est légal et qu'elles n'ont pas besoin de se cacher, c'est quand même pas quelque chose que tu cries sur tous les toits, tu vois, surtout si t'es toi-même mariée ou que t'as des enfants ou un autre boulot à côté. Et je pense qu'on défend farouchement l'accès à notre vie privée, pas parce qu'on estime qu'on va nous reconnaître partout, mais parce qu'il y a un moment, un endroit du monde, une dimension du monde où t'as envie de pas être une pute, de pas faire ce boulot, et c'est ton endroit à toi, et t'y fais absolument ce que tu veux, et ça ne concerne personne. Donc, ouais, tu vois, j'ai gardé plus de contacts réguliers avec d'anciens clients, tu vois, qui sont devenus des amis, par exemple. Mmh. Non pas que je passe ma vie à aller prendre des cafés avec eux, tu vois, mais je crois que j'ai fait des rencontres où j'ai senti depuis le départ que voilà, que c'était pas que des clients et que c'était aussi des mecs sympas et qu'on arrivait à se comprendre.
En parlant de clients, tu penses pas que est-ce que les hommes se comportent de plus en plus en clients par rapport aux femmes aujourd'hui ?
Ah ben, je pense que peut-être les hommes vont de moins en moins se comporter en clients. Je crois que depuis le début de l'humanité, les hommes se comportent en clients. Et que dans n'importe quel couple, il y a une forme de prostitution larvée. C'est quand même le premier lieu de prostitution larvée, le couple, tu vois. Et toutes les fois où tu te forces un peu parce que ça va lui faire plaisir, parce que il dort pas et que toi t'as envie de pioncer, que tu te dis que ça va prendre 5 minutes et qu'après c'est bon, tu vois, ou alors t'as quelque chose à lui demander le lendemain, donc tu veux bien le disposer. Enfin, il y a plein de situations, je t'en ai cité quelques-unes, mais où nous femmes on se botte un peu les fesses pour commencer le truc, tu vois. Puis il y a plein de moments où tu commences et t'as pas envie, mais en fait en cours de route tu t'aperçois que bah là oui, tu vois, tu regrettes pas de t'être lancé, que l'appétit vient en mangeant. Mais ça, c'est toujours ce problème entre les hommes et les femmes, c'est que nous on a besoin de temps, quoi. C'est ça, on vit pas, on ne désire pas au même rythme que les hommes. Et donc je pense que la prostitution, il y a pas besoin d'aller au bordel pour la vivre. Et
je pensais plutôt aussi, indépendamment du couple marié, je réfléchissais à la notion de plan cul.
Ah oui, oui, ça c'est intéressant aussi, oui, se dire par exemple que Tinder présente pour les mecs la possibilité de baiser sans engagement, bah oui. Mais pour pas un rond non plus.
Voilà, exactement.
Oui, mais...
À un moment, je me suis dit, mais finalement, enfin, si on pousse le raisonnement, tu vois, jusqu'au bout,
ouais.
Je me suis dit, mais après tout, pourquoi ne pas rémunérer le plan cul?
Bah, parce que peut-être que les femmes aussi, à un moment ou un autre, cherchent des plans cul, tu vois. Mais c'est vrai qu'en tant que femme.
Non, mais après, ça peut être dans les deux sens, tu vois.
Mais enfin, ça peut tout à fait être dans les deux sens. Mais la différence entre un mec qui devrait être rémunéré et un mec avec lequel t'as juste eu un plan cul, c'est que le mec avec qui t'as eu un plan cul, s'il est bien élevé, s'il se comporte pas en client, le matin, il te chasse pas de chez lui, il te fait un café, il te renvoie un message au moins pour te dire merci. Alors que les mecs qui te foutent dehors à 6 plombes du mat et qui te rappellent jamais, là, effectivement, il y a des moments. Enfin, ça nous est arrivé à toutes, je pense. Où tu te dis, bah, tu vois, là, s'il m'avait filé 300 balles, hein, et bah, j'aurais moins de rancœur. Parce qu'au moins, j'irais me faire plaisir, j'irais m'acheter un truc. Et je me dirais pas que je me suis fait avoir, quoi. Mais après, plutôt que de faire rémunérer les plans cul Tinder ou les trucs comme ça, je pense que. Je me rends compte, moi, en tant que fille, à quel point c'est compliqué, d'ailleurs, de trouver un plan cul sur Tinder, même sur un site comme Tinder, parce que beaucoup de mecs, aujourd'hui, ont tendance à dire « Ah, moi, je cherche pas de plan cul, je cherche la femme de ma vie. » Alors, tu sais pas s'ils font semblant pour rassurer les nanas, ou si, en fait, eux, ça leur fout les jetons qu'une nana puisse ne chercher que ça, qu'un plan cul, tu vois. Alors, ça pose la question de est-ce que peut-être nous, on devrait rémunérer les plans cul si on a vraiment envie que de ça? J'en sais rien. Est-ce que, tu vois, la question d'un bordel pour femmes, est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce qu'on aurait envie d'y aller? Je sais pas, c'est des questions intéressantes, mais je crois, pour répondre à ta question, que les hommes vont de moins en moins, grâce au féminisme, grâce à des trucs comme MeToo, de moins en moins se comporter en tant que client et prendre conscience du fait que le sexe consensuel, ça comporte comme partout des bonnes manières, une empathie, une envie de comprendre l'autre et de comprendre le désir de l'autre, quoi.
Je vais diffuser ce podcast dans pas très longtemps. Du coup, je me suis dit que ce serait pas idiot de t'interroger sur le voile, justement. On en a parlé rapidement.
Ouais, vas-y.
T'en penses quoi?
Bah, je pense pas grand chose du voile. J'ai tendance de plus en plus à me dire que si tu forces une femme à mettre un voile, t'es un sale con. Si tu forces une femme à enlever son voile, t'es un sale con aussi. Après, voilà, ça pose des problématiques féministes parce que bon, qu'est-ce qui pousse les femmes à mettre un voile? Est-ce que ce serait pas un bouquin par hasard qui a été écrit par des mecs il y a des milliers d'années, tu vois? Certes, mais après, avec ma perspective d'occidentale, de française, c'est compliqué de juger la perspective des nanas qui ont grandi dans une société où toutes les femmes portent des voiles, où c'est quelque chose de normal, où en plus, si tu mets pas de voile, tu vas te faire emmerder toute la journée. De plus en plus, je suis pour le vivre et le laisser vivre. Tu vois, moi, en Allemagne, dans la crèche de mon fils, il y a au moins 3-4 éduques qui sont voilées. Et c'est vrai que ma mère me disait, en France, je crois qu'elles ont pas le droit de porter un voile. Mais putain, pas une seule seconde, tu vois, avec mon copain, on s'est dit, ah, putain, est-ce que c'est problématique ou pas, tu vois. Enfin, en vrai, on en a rien à foutre. Et les enfants n'en ont strictement rien à foutre. Parce qu'un des arguments, c'est aussi, oui, mais les enfants vont penser que c'est normal ou ça va leur faire peur. Mais les enfants, ils s'en foutent, ils voient la tendresse, tu vois. Ils voient que la nana est gentille avec eux, leur parle gentiment. Enfin, moi, tu vois, une femme voilée m'a jamais fait chier dans le métro, tu vois. Une femme voilée, jamais venue m'emmerder sur Twitter. Enfin, je pense rien du voile. Moi, je veux juste que les femmes soient heureuses comme ça leur convient, tu vois. Si elles sont plus heureuses avec un voile, et bah, très bien.
T'es pour la légalisation de la prostitution en France?
Bah, moi, je serais plutôt pour la légalisation, la décriminalisation. Je pense que c'est tout à fait stérile de partir dans une autre direction. C'est une illusion totale, par exemple, que de dire que il faut abolir la prostitution. Mais enfin, rien que le choix du terme, mais ça, tu te demandes si c'est une blague ou pas. On ne peut pas abolir la prostitution. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à faire semblant que ça n'existe pas. Et du coup, venir pleurnicher parce que y a des prostituées, de mineurs qu'on force, tout ça.
Mais après, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais est-ce que c'est pas aussi aller vers... alors c'est peut-être complètement basique hein, comme raisonnement, c'est peut-être complètement débile, tu peux tout à fait m'envoyer balader, mais est-ce que c'est pas laisser prévaloir, tu vois, du coup, la domination des rapports d'argent Je sais pas, moi je fais toujours un lien entre capitalisme et prostitution. Mais alors peut-être que je me trompe,
mais
hein,
non,
tu vois,
je pense
qu'il y a forcément
raison.
Un lien, quoi.
Mais le lien, il est tout simple, c'est qu'on se retrouve dans une société où il y a une telle injonction à la consommation qu'on reproche aux femmes d'avoir envie de bosser moins pour gagner plus et pour pouvoir elles aussi consommer. Mais dans ce sens-là, il me semble quand même que les femmes qui décident de faire ce métier et qui s'en trouvent bien, c'est une forme de prise de pouvoir que de pouvoir gagner de l'argent en prenant comme ça les mecs à leur propre jeu, le patriarcat à son propre jeu, ou en y trouvant une forme d'empowerment que moi j'ai pas trouvé par exemple en étant serveuse, quoi, tu vois. Certes, on pourrait se dire que si demain on légalise, peut-être va y avoir une espèce d'ubérisation de la prostitution, mais je peux te dire que dans un contexte où c'est pas légal, c'est là que tu te retrouves dans des situations où il faut que tu négocies au rabais avec un mec, parce que de toute façon...
La mise en danger, bien sûr.
Oui, de racolage, qui est la partie pour moi la plus désagréable, la plus déshumanisante du boulot. Oui, je comprends les craintes qu'on peut avoir à l'idée de légaliser ou en tout cas d'ouvrir le débat beaucoup plus qu'il ne l'est maintenant. Mais je pense que, par exemple, toutes les nanas qu'on force à faire ce boulot et toutes les mineurs qu'on réduit à la prostitution, on peut pas faire grand-chose si on fait en sorte que le phénomène soit une espèce de cauchemar qui n'existe qu'en périphérie et qu'on essaye de faire en sorte que la prostitution soit bannie partout. Il y en a partout des prostituées. Et ce modèle suédois qu'on nous vante, notamment en Allemagne, où les choses sont en train de bouger... le nombre de clients suédois que j'avais qui venaient en Allemagne. Donc en fait, tu ne fais que déplacer le problème. Tu t'interdis la prostitution quelque part, elle se développe ailleurs. La seule chose qui soit intéressante de faire, c'est de discuter, et non pas avec les gens du gouvernement, mais avec des prostituées, pour savoir quel cadre serait pour elles acceptable, parce que le système allemand n'est pas parfait. Mais c'est un débat sur lequel on ne peut pas légiférer sans les prostituées. Et je peux te dire que les prostituées en France, elles étouffent, elles étranglent sous les règles anti-putes qui les empêchent de bosser et de faire leur boulot correctement, quoi. C'est dans des cadres où c'est pas légal que t'es obligé de parfois faire des trucs sans capote parce que sinon le mec il va pas te payer plus, que t'es obligé d'accepter de faire ça pour beaucoup moins que ce que t'estimes valoir parce que personne derrière toi n'est là pour dire non monsieur, on a dit que c'était tel prix. Et voilà, qu'il y a une situation qui est possible par exemple dans un établissement comme la maison où les prix sont fixés d'avance. Et je précise, parce que j'ai entendu pas mal de fois que mon truc était mensonger, que j'avais forcément un proxénète et qu'il était très difficile de trouver 50 prostituées sans proxénète en Allemagne. Ça ferait beaucoup rire mes collègues. Je sais pas d'où sortent ces chiffres. Mais petite précision, moi, ce que je reversais à la maison, c'était le prix de la location d'une chambre, d'un établissement propre, avec des douches, avec des pièces qui étaient uniquement faites pour nous et avec quelqu'un qui faisait pour nous notre emploi du temps. C'est-à-dire aucun besoin de chercher ses propres clients. Et moi, c'était un marché que je trouvais acceptable pour ne pas avoir à faire ce boulot-là en amont. Ça n'est pas du tout équivalent à un proxénète, puisque la maison ne touchait pas d'argent sur nos performances, mais sur le prix des chambres. Donc voilà.
Je reviens à toi en tant que romancière. D'où te vient ce... le talent, c'est quelque chose de très... métaphysique, mais enfin, quoi que non, moi je pense que c'est beaucoup de travail, mais t'as un talent fou. Honnêtement, j'ai jamais vu une plume pareille, enfin, jamais vu dans notre génération, tu vois. Enfin, moi j'ai été époustouflée par ta manière d'écrire. Vraiment, parce que, je sais pas, t'as un truc incroyable. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce que t'as fait pour avoir ça?
Bah, écoute, c'est un truc assez gentil. Merci pour tes questions. Je sais pas tellement comment y répondre. Je sais pas. Je crois que j'ai beaucoup lu et qu'il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont beaucoup marqué dans leur style. Tu vois, je pense notamment à Nicholson Baker, qui est un Américain, qui a écrit un bouquin que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Le Point d'orgue, qui est un bouquin absolument magnifique. Maupassant, tu vois, m'a beaucoup influencé dans sa manière tellement tendre de parler des femmes, de parler des hommes, qu'à l'affaire, Zola, tu vois. Alors je dis pas que j'écris comme eux, mais je dis qu'en tout cas, c'est des styles qui, à un moment, Ah, c'est vrai. Et c'est des styles qui, à un moment, m'ont plu au point que je les ai intériorisés et que j'avais envie d'écrire comme ça, tu vois. Et en même temps, j'ai aussi un grand amour pour des grands narrateurs américains type Stephen King, ouais. Ou John Irving ou Bret Easton Ellis, tu vois. Alors, Bret Easton Ellis, j'ai découvert plus tard, mais en tout cas, Stephen King et John Irving, je me souviens les avoir lus très jeunes, mm-hmm. et de me dire, waouh, mais c'est comme ça que je veux écrire. Ou Jeffrey Eugenides, tu sais, qui a écrit. Ouais. Virgin Suicides. La narration américaine est quelque chose qui me fascine. Tu vois, Hunter Thompson, le Gonzo journalisme. Enfin, je trouve qu'il y a des phénomènes américains absolument incroyables. Et je crois, enfin, j'estime en tout cas que mon style est peut-être un mélange de mes lectures françaises dans un âge très tendre et en même temps les narrateurs américains. Puis je sais pas, j'aime la BD. Alors peut-être que peut-être qu'il y a un certain moment un côté volontairement un peu graphique parce que ne pas pouvoir dessiner, enfin en tout cas pas assez bien pour c'est une des grandes souffrances de ma vie, tu vois. Je crois qu'il y a des moments où des mecs comme Reiser par exemple, il y a des moments où vraiment tu t'aperçois qu'en un trait tu peux dire tellement plus qu'en trois pages, et c'est une grande jalousie de pas pouvoir dessiner, quoi.
Moi, je te rassure, tu compenses.
Oui, bah merci. Merci beaucoup.
Justement, en parlant de lecture, est-ce que tu as lu récemment ? Est-ce que tu as le temps de lire d'ailleurs en ce moment ?
Et oui, mais je crois qu'on a toujours le temps de lire. Je crois qu'on se l'invente, le temps de lire. Et j'ai, bah écoute,
est-ce que
j'ai
lu... un coup de cœur récent ?
Alors, j'en ai eu plusieurs, mais là, l'un de mes coups de cœur en ce moment, c'est un livre génial qui est sorti chez Belfond, qui s'appelle Joli, joli monstre. Ouais. De Julien Dufresne-Lamy, que j'ai rencontré quand j'étais à Montpellier. Et en fait, c'est un livre qui parle du voguing et des drag queens à New York à la fin des années 70, non, même 80. Hein. Et que moi, j'ai lu. Et en parallèle, j'ai regardé Paris is Burning, que j'avais jamais vu. Ouais. Et j'ai été éblouie, bon, déjà par l'histoire que je connaissais pas trop, parce que je pense que c'est un livre qui parle à n'importe qui s'est dit un jour, je pourrais être tellement mieux que ce que je suis, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment m'y prendre, tu vois. Et moi, ces histoires de mecs ou de femmes, tu vois, c'est ça le problème, c'est que je sais même pas s'il faut dire il ou elle.
Ouais.
Mais de ces gens qui restent, tu vois, qui sont capables de rester 7 heures devant un miroir et qui ont une technique, mais que moi, j'aurais jamais pour, tu vois, se maquiller, chasser les ombres qui rendent leur visage masculin et se transformer petit à petit en femme beaucoup plus convaincante que beaucoup que de femmes, tu vois. Et vraiment, tu vois, cette fascination de se transformer en femme qui est comme ça habillée pour tuer, tu vois, qui est là pour être désirable et désirée, c'est une fascination que moi j'ai toujours ressentie et qui notamment m'a poussée à faire une expérience comme celle-là, tu vois. Et j'ai trouvé ça émouvant, tu vois. Il a des fulgurances parfois quand il écrit. Moi, je me souviens qu'à un moment, il dit, il parle d'une de ses mamans, de ses maisons de drag queen, et il dit Angie a appris à être mère. C'est facile d'apprendre, il suffit de ralentir les gestes, tu vois. Et étant maman, cette idée de ralentir les gestes et que ce soit à peu près ça, l'essence de la maternité, moi, ça m'évoque énormément de choses et je trouve qu'il y a une grande, grande vérité là-dedans.
C'est beau, ça.
C'est magnifique.
Ouais, c'est beau.
Et je trouve
ralentir
que...
les gestes et la maternité, c'est très beau.
Mais c'est ça, ouais. Et c'est là que tu t'aperçois, enfin à plein d'autres occasions, mais là, notamment dans cette phrase, est comprise l'idée que la maternité, c'est pas quelque chose qui appartient aux femmes. La maternité, c'est un phénomène qui se développe.
C'est une vibration. Enfin,
et c'est qui s'invente, en fait. C'est pas quelque chose qui est entièrement lié aux femmes. Ça, c'est un de mes grands, grands coups de cœur de la rentrée. J'ai trouvé que c'était une merveille. Et Sophia Aouine, hein, la Rhapsodie des oubliés, ouais. qui m'a transportée aussi. Où j'ai retrouvé tellement de Romain Gary, tellement de Zola. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de trucs dans ce livre. C'est indescriptible. Pour moi, c'est vraiment une version de la vie devant soi contemporaine.
Ouais. T'as un coup de gueule à passer ?
Ah !
Quel qu'il soit, ou des coups de gueule d'ailleurs.
Est-ce que j'ai des coups
un
de gueule ?
Un truc qui t'agace profondément en ce moment, un truc qui je sais pas, ça peut être lié ou pas à l'actualité, ça peut être quelque chose qui t'énerve.
Bah écoute, est-ce qu'il y a des choses qui m'énervent ? Oui, fatalement, par rapport à mon bouquin, tout n'est pas lié à mon bouquin, mais là, si tu me dis coup de gueule, ce que je pense, c'est notamment à quel point tu t'aperçois, bon, j'ai eu une super réception du livre, tu vois, je suis pas en train de cracher dans la soupe, mais de m'apercevoir qu'en fait, il y a des, finalement, pour beaucoup de féministes, il y a un bon et un mauvais féminisme, tu vois, et que finalement, si t'es un tant soit peu une femme qui aime les hommes, et bah pour une certaine frange du féminisme, t'es une femme à abattre, tu vois. Et j'ai eu deux articles absolument atroces sur des sites féministes, enfin disons pas mon féminisme à moi.
Bon, alors on va pas faire de pub, hein.
Non, mais voilà, tu vois, où on m'accuse d'être le rejeton le plus abject du patriarcat, de faire le jeu du trafic sexuel. Enfin, non, mais.
Ces termes-là,
où on me reproche de complètement, tu vois, occulter le fait qu'il y a de la prostitution forcée. Et je trouve ça tellement abominable d'infantiliser les femmes comme ça, tu vois, de retirer aux femmes le droit de décider pour elles-mêmes ce qu'elles ont envie de faire de leur corps, tu vois. Que t'aies pas envie de te prostituer, d'accord, mais viens pas faire chier celles qui ont envie de se faire, celles qui ont envie de se prostituer, celles qui font ce boulot, tu vois. Et puis de dire qu'on est forcé à ça, mais on n'est pas plus forcé que n'importe quel imbécile qui a besoin de bosser et de payer ses factures, tu vois. Mais c'est ce truc de bon féminisme et mauvais féminisme et de vouloir sauver les prostituées d'elles-mêmes, tu vois, de leur dire, mais t'es pas à même de décider si oui ou non ce boulot te convient, tu vois. Là, tu crois que ça te convient, mais peut-être dans 10 ans, tu seras traumatisée. Et qu'en plus, ce soit pas que des vieilles, tu vois, c'est souvent en plus des jeunes, tu vois. Et à la limite, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est énoncé d'un ton tellement dogmatique, alors que vraiment, la féminité, le féminisme, le désir, ça ne tolère pas le dogme. Et la prostitution, c'est pareil. Il n'y a pas une forme de prostitution qui ressemble à sa voisine. La prostitution, c'est un conglomérat de 1000 expériences bien différentes. Sûr. Et que moi, je dise d'avoir été une prostituée heureuse et que je parle de mes collègues qui avaient l'air d'être des prostituées peut-être pas, en tout cas, heureuse, mais revendiquée, tu vois. Ça n'invalide pas l'expérience des femmes qu'on force à se prostituer, bien tu sûr. Vois. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les prostituées sont heureuses. Il y a des prostituées heureuses, il y a des prostituées qui ont été heureuses, il y a des prostituées qui sont heureuses, mais qui ont des mauvais jours, comme dans n'importe quel corps de métier. Et qu'on retire aux femmes la possibilité d'être des travailleuses. Et je trouve ça intolérable. Je trouve que ce dogmatisme, ça ne sert pas le féminisme, ça sert pas les femmes entre elles, et je trouve ça complètement con, tu vois, parce qu'en voulant sauver les femmes d'elles-mêmes, et finalement c'est là qu'on joue le jeu du patriarcat. C'est pas moi le rejeton le plus abject du patriarcat. Moi, je fais que parler de la liberté des femmes. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait tous qu'on aille travailler au bordel. Je suis en train de dire que celles qui veulent aller travailler au bordel, et qu'on leur foute la paix. Et qu'on les écoute. Parce que c'est elles qui savent comment le métier devient ou non tolérable. Et les prostituées savent très bien que c'est un accord qu'on prend avec soi. Et que tant qu'on est en accord avec soi-même, et le reste du monde, on les emmerde. Tout simplement. C'est ça mon coup de gueule.
Bon, il est bien.
Merci.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Emma ?
Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? De l'inspiration pour mon prochain bouquin. Ça fait toujours peur aux écrivains de se retrouver devant une feuille blanche. Mais rien, de continuer à écrire peut-être, parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde.
Et pour notre plus grand plaisir, donc je t'en supplie, continue.
Merci.
Merci beaucoup à toi.
Merci
Emma.
À toi.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.